Bonjour à chacun, à chacune. Je pensais qu'on allait les louer encore un petit peu, mais on va encore louer encore d'autres chants qui vont venir. Alors, bienvenue à ceux et celles qui, effectivement, viennent pour la première fois. Vous êtes, peut-être certains sont surpris. On va aller à l'église ce matin. Tiens, c'est un lieu un peu curieux hein, pour une église. Il est tout simple, il est tout sobre. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a quelqu'un qui est présent. Vous êtes présents, mais il y a le grand Dieu, le Dieu unique. Et je le dis simplement parce que je sais que chacun le sait. Peut-être certains, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oui, chacun le sait, puisque Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc voilà, on le sait. On sait qu'il y a un Dieu créateur, tout nous le montre, la création nous le montre. On a une conscience qui nous montre que quand ça va, que ça ne va pas. Alors voilà. Très simplement, on peut dire ce matin, il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les personnes qui sont ici sont des créatures de Dieu, aimées de Dieu. Et puis, on va peut-être en parler un peu ce matin, il y a eu sans doute des problèmes dans les vies qui fait que ce n'est pas aussi merveilleux, forcément, qu'on aurait pu l'imaginer. Le Dieu est bon, on l'a chanté, plusieurs ont prié dans ce sens-là. Il est même très bon. Ce qu'il a fait est bon, c'est même très bon, mais nous les hommes, les femmes, hein, on a des trucs qu'on a ratés un peu. De temps en temps, on a raté la marche. Hein. Voilà. Alors on va parler un peu de ça ce matin, et on va parler à travers d'un texte. J'ai eu beaucoup de combats, j'avais toujours beaucoup de choses à dire. J'aime annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce matin, je voudrais le faire à travers un texte que j'ai pris il y a 4-5 ans, mais le Seigneur m'a montré autre chose, peut-être, à travers ce texte. C'est dans le livre des Actes. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, le livre des Actes, c'est... La Bible couvre à peu près 16 siècles d'histoire du peuple hébreu, un peuple que Dieu s'est choisi. Et puis, qui a commencé, grosso modo, vu d'aujourd'hui, il y a 4000 ans, avec Abraham, entre autres, hein. Mais bon, l'histoire de l'humanité a commencé avant. Et puis, il y a eu un événement central qui a été confessé déjà ce matin dans les bouches, la venue de Jésus-Christ sur la terre. Hein. Alors, le livre des Actes se situe, grosso modo, une quarantaine, 35 ans après la venue, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre, il a fait un certain nombre de choses, on va rappeler là. Et puis, il est mort à 33 ans. Condamné par les hommes, et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Il est remonté au ciel. Et je voudrais vous dire une chose, peut-être certains, ça les surprendra, il reviendra. Il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Bon, alors, Robert, viens dans ton texte. Nous allons lire dans Actes, le livre des Actes, donc. Le livre des Actes se situe donc après que Jésus soit remonté au ciel, et il a répandu le Saint-Esprit qui est venu parler au cœur des hommes. Et là, des hommes remplis de ce Saint-Esprit ont parcouru la terre connue à l'époque, notamment tout le bassin méditerranéen, et ont répandu cette bonne nouvelle qu'un homme était venu, Jésus, qui est le Fils de Dieu, et qui est répandu, qui a payé pour nos péchés. Ils ont proclamé avec autorité cette bonne nouvelle. Ça s'est répandu sur tout le bassin méditerranéen. Et depuis, jusqu'aux extrémités de la terre, et aujourd'hui, on est quasiment rendu aux extrémités de la terre, cette fois-ci de la terre entière, où la bonne nouvelle a été annoncée. Et ce matin, peut-être encore quelques-uns vont l'entendre pour la première fois. Je vous invite à lire donc dans le livre des Actes, chapitre 8, nous lirons les versets 26 à 40. Attendez-vous à entendre des choses curieuses, surprenantes. Livre des Actes, chapitre 8, verset 26, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit... » Philippe était un évangéliste, quelqu'un qui avait été saisi, justement, par le message de l'Évangile et qu'il proclamait à tous ceux qu'il rencontrait. S'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, si vous voulez, le ministre des Finances, on pourrait dire aujourd'hui, hein, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui était une reine puissante et particulièrement riche, c'est vrai. Donc ce ministre était venu à Jérusalem. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 2700, 2800 ans. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Un homme jouissant d'une situation sociale élevée vient à Jérusalem chaque année pour adorer. Cet homme, il cherche. Il sait au fond de lui-même qu'il y a un Dieu au-dessus de lui et il veut le connaître. Mais comment faire ? Je notais en lisant ce texte que cet homme devait être riche parce qu'il nous est dit qu'il lisait un rouleau, un parchemin, ce n'était pas des livres à l'époque, la parole de Dieu, que Dieu avait inspiré à Ésaïe, on va le lire tout à l'heure, on va lire tout à l'heure ce livre, a été retranscrite. Il y avait une tradition orale, mais elle a été aussi écrite sur des parchemins, donc des rouleaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait le rouleau du livre, sur des parchemins. C'était fait par des scribes, et il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Or cet homme, lui, dispose d'un exemplaire du rouleau du livre d'Ésaïe, donc une recopie de ce texte d'Ésaïe. C'est dire quand même que sa recherche était forte. Certes, il avait les moyens, mais il aurait eu bien d'autres livres à lire et il s'est procuré ce livre d'Ésaïe. Il le lit. Il le lit, mais ne comprend pas. Et c'est là où Dieu intervient. Alors peut-être on ne se rend pas compte en lisant un texte comme ça. Dieu intervient. Il intervient, il envoie un ange, qui sont des esprits, au service de Dieu, pour le salut des âmes, justement, que Dieu veut arracher et amener à la vie éternelle. Cet ange intervient auprès de Philippe et lui parle. Il lui dit, va. Philippe obéit et on a lu la suite. Dieu connaît les cœurs et la disposition du cœur. Le cœur de cet homme cherche Dieu et Dieu va l'éclairer. C'est pas surprenant, Jésus est la lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Dieu intervient en envoyant Philippe, un de ses serviteurs, qui pose cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» La réponse de l'eunuque, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On voit là, chez cet homme, je rappelle, un homme de pouvoir, il y a quand même une sacrée humilité. Est-ce que vous connaissez beaucoup de hauts responsables qui acceptent de dire, bah, écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est vrai qu'ils sont formés pour avoir réponse à tout. Eh bien, lui, il dit, écoutez, comment le pourrais-je? Ça lui paraît une évidence qu'il ne peut pas comprendre. Il a besoin d'aide. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Humilité, c'est un homme qui est enseignable. Ça nous parle aussi que la foi, elle est transmise. Beaucoup d'entre nous qui sommes ici, qui connaissons le Seigneur, qui avons eu cette révélation, on l'a reçue parce que d'autres qui l'avaient reçue avant nous nous ont témoigné. Nous ont dit, peut-être à travers des circonstances de vie difficiles, il y a une espérance. Il y a un Dieu créateur qui t'aime et voilà ce qu'il a fait. La foi est transmise. Nous ne sommes pas une génération spontanée, nous ne naissons pas chrétiens, mais nous, par la transmission de ceux qui ont cru, par la chaîne des témoins de la foi, nous pouvons connaître Jésus-Christ. Cette foi, elle repose sur une parole inspirée de Dieu. Nous voyons que cet homme a été touché, on va lire le texte qu'il a lu, elle a été touchée par une parole que Dieu a donnée il y a des siècles à des hommes pour nous enseigner aujourd'hui. Cette parole, la Bible nous dit, c'est une parole qui est utile pour instruire, pour reprendre, pour encourager, pour consoler. Une condition pour que nous la comprenions aussi. Et qu'a rempli cet homme ? La crainte de Dieu. Et là, je fais une distinction. J'ai dit tout à l'heure que je sais que tout homme, toute femme, sait que Dieu existe. Je le dis et je l'affirme parce que la parole le dit et l'affirme. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné un corps, qui est une merveille, la parole le dit aussi. Il nous a donné un cœur, une vie intérieure, et il a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc chaque homme sait que Dieu existe, sait que Dieu est créateur. Et il a fait en sorte qu'on ne puisse se dépatouiller de ça, autrement qu'en reconnaissant qu'il y a ce Dieu. Il a mis sous nos yeux la création, merveilleuse. Quoique parfois abîmé, mais par l'homme. Et il a mis une conscience qui nous parle, qui nous indique lorsque quelque chose va, lorsque quelque chose ne va pas. Donc Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse ignorer qu'il existe. Avant même ainsi donc de reconnaître que Jésus-Christ est précisément le Fils unique de Dieu, ce que va faire l'eunuque, chaque homme est responsable de ce qu'il sait déjà. Nous ne sommes pas nés par hasard, la création a été créée par un créateur, reconnaissons-le simplement, c'est la première étape. Cet homme, lui, sait ces choses. Et la terre, son cœur, est prêt pour que la semence de la parole qui a été semée à travers la lecture de ce texte qu'on va lire maintenant germe et fasse naître la vie d'en haut. L'humilité de cet homme se manifeste à travers le fait même de poser des questions. Pas facile des fois. On se dit, je vais bien me débrouiller tout seul. Et c'est aujourd'hui, on est dans un temps où il y a tellement d'informations disponibles que tout nous invite à nous débrouiller seuls. Et pourtant, Dieu nous invite à avoir cette humilité, d'aller vers ceux dont on reconnaît qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas. De qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou d'un autre ? Il sent, en lisant ces textes, qu'il y a quelque chose de curieux. Alors Philippe, ouvrant la parole à ce moment-là, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Alors, je vois que vous êtes impatients, nous allons aller lire ce texte dans Ésaïe, et je tourne ma Bible, parce que c'est des textes anciens, très anciens, qui se trouvent dans une première partie de la Bible, qui s'appelle les Écritures ou le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pardon, c'est le livre d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a énormément conseillé des rois, et nous allons lire dans le chapitre 52. C'est un texte un petit peu long, mais Je crois que s'il a touché le cœur de l'Éthiopien, s'il a touché aussi dans d'autres moments le cœur des disciples d'Emmaüs, j'y reviendrai, je crois qu'il peut nous toucher ce matin. Nous allons lire à partir de Ésaïe 52, le verset 52, et nous lirons Ésaïe 53 à la suite. Voici les paroles que reçoit le prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Dans le passage que je viens de lire, ce qui est annoncé, c'est qu'un jour, le serviteur de Dieu, Jésus-Christ, sera élevé très haut et il reviendra. Ça nous est déjà annoncé là. Et puis là, il va nous être présenté ce que Jésus a vécu quand il est venu sur cette terre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce texte écrit donc 750 ans avant la rencontre de l'eunuque avec Philippe. Ce qui est annoncé dans ce texte vient de s'accomplir pour l'eunuque et pour Philippe quelques années avant. Jésus-Christ est effectivement venu sur cette terre dans une condition particulièrement humble. Il a opéré de grands miracles et puis il a été mis à mort. Lui qui n'avait fait que du bien, lui qui avait guéri les malades, lui qui avait délivré les captifs, lui qui avait aimé, tellement aimé, il a été mis à mort, condamné, crucifié à notre place. Annoncé 750 ans avant sa venue, ce texte nous parle de ça. Et c'est ce texte qui a touché l'eunuque. Philippe, donc, commençant par ce passage, Et s'il est dit qu'il a commencé par ce passage, c'est qu'il a aussi évoqué d'autres passages comme je le fais ce matin. C'est-à-dire qu'il a fait le lien entre ce qui était annoncé par ce prophète et les événements qui ont eu lieu quelques années avant. Et du coup, il répond à la question de l'eunuque. Est-ce que ce texte concerne Ésaïe, l'auteur du texte, ou un autre ? Oui, ça concerne un autre. Ça concerne celui qui est annoncé. Et là, nous voyons ce grand Dieu qui, devant la ruine de l'homme, la perdition de l'homme, la révolte de l'homme, a de toute éternité conçu un plan pour ramener l'homme à lui, pour être réconcilié avec l'humanité qui s'est révoltée contre lui. Moi, je comprends que l'eunuque ait été touché, parce que j'ai été touché par ça. Réalisant la grandeur de ce Dieu, son immense bonté, devant nos révoltes, devant ma révolte, devant mon orgueil, pendant des années de ma vie, ignorant que j'étais aimé d'un Dieu qui a fondé la terre, d'un Dieu puissant qui aurait pu m'écraser, qui aurait pu me laisser aller à la mort, qui aurait pu me laisser me perdre dans mes voies. Il m'a aimé. Il est venu me chercher. Il a mis sur ma route des hommes, des femmes qu'il connaissait et qui ont témoigné. Oui, un homme Jésus est venu, né d'une femme, avec une vie à la fois humble, mais manifestant la puissance de Dieu par des prodiges, des miracles, avait finalement été condamné. Philippe a raconté le récit de la résurrection. Il a sans doute aussi fait allusion à l'incrédulité des disciples qui ne croyaient pas à la résurrection, bien que Jésus leur en ait parlé. Peut-être leur a-t-il parlé de cet épisode des disciples d'Emmaüs qui étaient abattus, tristes, parce que Jésus était mort, avait été crucifié, et cela faisait 3 jours, et tout était fini. Et Jésus lui-même, comme va le faire Philippe, enseigne ses disciples. Et commençant par les prophètes, commençant par Moïse, puis les prophètes, il rappelle aux disciples d'Emmaüs tout ce qui a déjà été écrit annonçant la venue de Jésus. Alors oui, ce récit vient toucher le cœur de notre homme et il comprend d'un seul coup, il sait, il a compris. Cet homme qui a souffert, qui est mort injustement, est en fait mort à notre place, il saisit, il comprend que c'est l'agneau immolé et que cet homme n'est pas qu'un homme, qu'il est l'homme qui vient de Dieu. Il est celui que Dieu a destiné à être pour nous, celui qui nous délivre du péché, qui guérit nos cœurs. En se chargeant de tout ce qui pesait sur nos vies. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Révélation. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois. Ça devient personnel. Cet homme, cet eunuque, va maintenant déclarer. Il a cru dans son cœur, il confesse de sa bouche. Je sais, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela est conforme à l'Écriture. Le psaume 119, le verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence, de la compréhension des choses de Dieu à ceux qui humblement acceptent d'être instruits, enseignés, conduits par d'autres. » C'est la condition, la crainte de Dieu et l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Dieu a parlé par les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus. Jésus est venu, il a accompli ce qu'annonçaient les Écritures et les apôtres, ses disciples, ont ensuite répandu cette bonne nouvelle de Jésus. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? La même question est posée ce matin à travers ces mêmes textes à ceux qui, aujourd'hui encore, peut-être dans leur vie, ont des tourments, cherchent à droite, à gauche. Il n'y a qu'un chemin, Jésus-Christ. Pourquoi ça paraît si compliqué ? Pourquoi si peu d'hommes acceptent ? Parce que l'orgueil doit se taire et reconnaître. Seigneur, j'ai besoin de toi. je suis perdu. Parce que nous parlons du salut, mais de quoi doit-on être sauvé? Eh bien, sauvé de cet enfermement, de cette révolte contre Dieu, de cette révolte qui consiste à penser que ce que nous sommes, notre intelligence, peut-être notre force physique, peut-être notre habileté dans les affaires, vient de nous et qu'on n'a besoin de personne. On est fragile. On est fragile. Frères et sœurs, mes amis, on vit un temps particulier. Dieu parle en ce moment. J'ai pas le temps ce matin de dire tout ce qui est annoncé dans sa parole, mais ce qui se passe en ce moment est annoncé dans la parole de Dieu. Viendra un temps où ce monde qui extrêmement orgueilleux, qui construit des tours plus hautes et qui pense tout maîtriser, est d'une fragilité. Regardez le virus là. Strass. Les Chinois ne peuvent plus travailler. Mais la bourse américaine tremble. Une pichenette de Dieu peut faire tout effondrer. Une pichenette de Dieu peut tout faire tout effondrer. Il est aux commandes. Il a créé ce monde. Il le soutient par sa parole. Il est aux commandes. Il n'a pas abandonné sa création. Et à combien plus forte raison, il n'a pas abandonné les hommes et les femmes qu'il a créés. Il s'est donné entièrement pour nous donner la vie. Croyez-vous qu'il va nous abandonner? Il est le maître. Il tient tout entre ses mains. Il tient tout entre ses mains. Comprenons ce qui se passe. Arrêtons-nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Celui qui révèle la vérité, celui qui a permis à l'eunuque de déclarer « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu », celui qui donne cette attestation dans le cœur dont nous a parlé Jean-Luc aussi au début. Encore aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ, glorifié, a répandu et qui accomplit sa mission conformément à ce que Jésus avait annoncé. Et pour terminer, je vais lire ce texte dans Jean, au chapitre 16, les versets 7 à 15. Jésus, aujourd'hui, n'est plus sur cette terre. Ni dans sa première humanité, ni dans son corps glorifié après la résurrection, il est remonté au ciel, à la droite du Père, où tout pouvoir lui a été donné. Il reviendra, et en attendant, il nous a fait une promesse. Je vous lis dans Jean, chapitre 16, au verset 7. Jésus était encore sur la terre, il allait mourir à la croix, puis ressusciter, puis partir. Et il prévient ses disciples que bientôt il va les quitter. Il va quitter cette terre. Voilà ce qu'il leur dit. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il faut effectivement une grande puissance pour convaincre l'homme qu'il est pécheur. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde, l'ennemi de nos âmes, est jugé. Il a été jugé lorsque Jésus est mort à la croix. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Moi aussi, ce matin, j'aurais bien vous dire encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, le Saint-Esprit glorifie Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je m'arrête là.